Philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 21 novembre 1990.
existe sous ce mode concret. Mais quand je fais la distinction entre pierre et homme, mais c'est une distinction qui se retrouve dans le langage. Et si je réfléchis un instant sur pierre et homme, je vois bien que c'est tout simplement la même réalité, connue de deux manières différentes, exprimée de deux manières différentes. D'un côté, j'exprime une réalité concrète, ceci est. Tandis que je ne dirais pas que homme existe en tant qu'il est sous ce mode universel. Homme, en tant que cette réalité universelle, n'existe que dans ma pensée. Il ne faut pas confondre ces deux, mais ça, je crois que quand je dis pré-philosophique, ça présuppose déjà une certaine réflexion, c'est sûr, mais ce n'est pas encore l'analyse philosophique. C'est tout proche du langage. Parce que dès que vous étudiez le langage, vous voyez bien le nom et l'attribut. Et parmi les attributs, ce n'est pas la même chose de dire Pierre est homme ou dire Pierre est intelligent. C'est sûr, il est intelligent en tant qu'homme. C'est sûr. Mais quand je dis intelligent, je regarde la qualité. Mais quand je dis Pierre pèse 110 kilos, c'est beaucoup moins qu'intelligent. Intelligent pour comprendre que 110 kilos, c'est pas l'intelligence, c'est la quantité. Quand je dis que Pierre est en relation avec Jacques, ben, c'est encore autre chose, parce que c'est peut-être une relation très intelligente ou très bête, parce que les idiots s'assemblent, n'est-ce pas? Alors, c'est asinus, asinum fregat, le vieil adage latin, l'âne appelle l'âne. Et puis se frotte. Alors, c'est une relation. Une relation, ça ne dit rien du tout. Il y a des relations stupides. Il y a des relations mondaines. Oui, il y a des relations mondaines. Le thé déstigmatisé, c'est les relations mondaines. N'est-ce pas? Et puis, il y a des relations qui sont merveilleuses, étonnantes. Ça peut aller très loin, puisque en tant que, si j'ai la foi, je dis que dans la très sainte Trinité, il y a une relation entre le Père et le Fils. La relation suprême. Donc, on ne qualifie pas, on dit relation. Vous voyez, c'est très descriptif, ce point de vue-là. Ça prend tout. Les catégories. Je crois qu'il faut garder aux catégories leur caractère très simple. J'allais très, presque dire primitif. C'est descriptif. Alors, comme distinction descriptive, c'est très intéressant parce que c'est déjà une expérience un peu élaborée. On dirait une expérimentation philosophique. C'est pas la simple expérience, c'est une expérimentation. Je vais réfléchir en disant, mais oui, c'est vrai, il y a 10 catégories. Il n'y en a pas trouvé une 11e. Parce que la 10e, c'est le Capharnaüm. On se trouve tout le temps. Les palais, les chaises, les tables, tout ce que vous voulez, les pipes, tout le Capharnaüm. C'est l'avoir, tout ce que l'homme est capable d'user. Alors c'est tout lié. Mais je vois donc que toutes ces catégories, sauf la première, sont secondes. C'est la simple chose que je fais. Pourrait jamais saisir la substance. Jamais. À partir de l'intelligence. Oh, ça, c'est un gros coup. Pour Descartes. Ce qu'il dit substance pensante. Descartes, il dit ça, substance pensante. Eh bien non. Vous ne saisirez jamais la substance à partir de votre connaissance. Parce que votre connaissance n'est pas substantielle. Je regrette. Dis la mienne, ouais, ça. C'est pour ça qu'on peut se parler. Et je sais très bien que c'est énorme de dire ça. d'un homme, telle grandeur, on mettrait le poids, évidemment, le poids, ça varie, c'est la grande identité, on pourrait dire, à telle date, je pèse tant. Mais il faudrait changer, peut-être, après le noviciat, 10 kilos de moins. Et alors, évidemment, ça faudrait changer la carte d'identité assez souvent, n'est-ce pas? Alors, on prend des simplifications dans la carte d'identité pour que ça aille plus vite. Mais c'est une carte d'identité, les 10 catégories. C'est la carte d'identité intelligente. Vous savez, tout ça, Pierre, implique toutes ces déterminations. Alors, autre question qui va te permettre d'aller un peu plus loin. Il semble qu'en parlant de substance première, on regarde deux aspects distincts. Je dirais, dans substance première, il y a des quantités de choses, voilà. Donc, c'est confus, ceci, c'est très vague, ceci, vous comprenez? Et Pierre, ça contient des tas de choses, en Pierre. Les neuf prédicaments. Alors, d'abord, la réalité existante. Ceci.
Dessus.
Le sujet, la res concrète, ah, elle peut jouer le rôle de sujet. Et j'explicite ces déterminations en attribuant. Car je n'en fais pas l'expérience. Ah, je fais l'expérience que Pierre est homme. C'est pas un mannequin. Je vous dis ce mannequin. C'est un autre ceci. C'est un mannequin. Tandis que quand je dis que Pierre est homme, je ne veux pas dire du tout que c'est un mannequin. Je veux dire que c'est un vivant. Parce que dans homme est impliqué vivant, est impliqué animal. Homme implique animal. Donc il est vivant. Mais il est vivant d'une façon très particulière. Alors qu'est-ce que c'est que la substance première? Tout simplement le ceci. Le todéti grec. Maintenant je peux mettre substance première. Substance seconde. Alors, pouvez-vous revenir sur la distinction substance première, substance seconde? Donc, c'est ce qu'on vient de faire, j'espère. Substance seconde, c'est l'attribution essentielle de Pierre. Tandis que quand je dis intelligent, attribution seconde, j'explicite dans Pierre ce qu'il y a de plus fondamental quand je dis substance seconde. Postons immédiatement homme comme substance seconde. Ben, immédiatement, pas immédiatement, ça présuppose ce que je disais tout à l'heure, une sorte d'expérimentation. Je compare Pierre à Minet. C'est un peu... Ben, mais je vois que c'est pas la même chose. Minet, c'est un champ. Alors, Pierre et Minet communient dans animal. Puisque Minet est un animal et Pierre est un animal aussi. Mais animal savant, Pierre. Animal bête, mais cultivé. Il est dressé, ce chat. Quand vous l'appelez, il lève la tête. Ben, c'est déjà quelque chose. Ben, il sort de l'animalité quand il lève la tête. Parce qu'il y a un petit quelque chose. Du dressage, qui est une participation de l'intelligence. Ben, que les voyez, il est en bonne compagnie, Minet. Il est monté de la compagnie des chats habituels. Vous pouvez dire un chat de maison. Hein. Alors, il a perdu un tout petit peu son caractère sauvage. Mais quand on l'appelle, il dresse la tête. Tandis qu'un autre chat appelé un chat d'égout, c'est sa compagnie. Il est avec les rats d'égout. C'est moins noble, mais ça reste un chat. Peut-on immédiatement, donc, pose-t-on immédiatement homme comme substance seconde? Non, après une petite réflexion. Ou bien le pose-t-on comme substance tout court? Non. Et seulement après intervient la distinction substance première sur seconde. C'est tout simplement que je vois que quand je dis ceci, concrètement, toutes les attributions viennent de lui. Oui. C'est bien évident que les prédicaments présupposent une réflexion. Mais une réflexion qui n'est pas philosophique au sens strict. C'est une réflexion ce que ça fait en se servant beaucoup du langage, mais je ne reste pas au niveau du langage. Je reste au niveau de ce qui existe, de ce qui est. Donc c'est pas une distinction logique. Pourquoi parle-t-on déjà de substance alors qu'on ne s'est pas encore interdit? Ben oui, c'est parce que la substance est un nom plus commun que le principe. Le principe est philosophique. Ça, c'est sûr. Quand je parle de substance comme principe, comme cause sur la forme de ce qui est, je suis en philosophie. Ça présuppose une induction. Tandis que quand je dis ceci mot substance indique toujours une détermination première. Je m'aperçois tout de suite de ça. Parce que le mot substance existe dans le langage. Je vous ai dit la dernière fois, ben, regardez dans Platon. Platon, dans le Cratyle. Et c'est intéressant. Le Cratyle est très intéressant hein, pour les philologues. C'est très intéressant. Platon dit que ousia égale estia. Plus exactement, ousia vient de estia. Estia, la déesse qui demeure dans la maison. C'est une déesse domestique, Estia. Elle demeure dans la maison. Elle allume la petite lampe tous les matins. C'est ça la déesse. Le frère qui allume la petite lampe tous les matins. Au cœur, au sanctuaire. Estia. La déesse qui demeure. C'est très joli du reste, hein, de voir que Ousia, voyez, l'influence religieuse dans la philosophie de Platon. Il prend Ousia parce que je crois que c'est le premier philosophe grec qui emploie Ousia. Je crois. Avant, c'est Phusis. C'est la nature. De nature à Ousia qui est très très intéressant au point de vue historique. Et alors on comprend très bien comment Platon, se servant de Ousia, a le souci de montrer la tradition religieuse. La déesse qui demeure dans la maison. Vous voyez, c'est très beau parce que ça montre que quand on touche l'être, on touche quelque chose qui transcende. C'est quelque chose de sacré, donc de religieux. Il y a quelque chose en substance. On a complètement perdu ce sens-là. Hein. On a laïcisé complètement la substance. Mais au point de départ, chez Platon, Ousia, c'est pas du tout laïcisé. C'est Estia, la déesse qui demeure. Oui, je crois que c'est quelquefois bon de revenir à cette origine première. Pourquoi ? Parce que Ousia, c'est proche de On. C'est pour ça que Ricoeur, hein, professeur de philosophie, quand il a été enseigné à la Sorbonne, une année, il a fait un cours sur Ousia. Il a traduit Ousia et Danse pour montrer l'appartenance avec être. Platon montre l'appartenance de Ousia avec Estia, la déesse qui demeure. Alors, étance, je veux bien, mais c'est pas français. Donc il vaut mieux mettre Ousia. Quand on ne sait pas traduire, on met le mot en attente d'un génie qui traduit. Parce que quand on a traduit Ousia, substance, en latin, regardez dans Cicéron, substantia. Vous voyez que l'étymologie de ousia et de substance sont totalement différentes. C'est ça qui brouille tout. Parce que des quantités de gens restent au niveau philologique, au niveau du langage. Substance, c'est substare. Je vous l'ai déjà dit. C'est le sujet. Tandis que le sujet, c'est bien quelque chose de premier, c'est sûr. Mais le sujet mieux faire ce dépassement, Aristote a justement précisé ce que c'était que la cuidité. Le premier dans l'ordre cuiditatif, la cuidité. Oui, c'est pour ça qu'Aristote a inventé un mot. C'est pour permettre cette induction. C'est pour permettre ce dépassement. Alors, il a saisi le toti en einein, la cuidité. La cuidité, c'est l'ordre de l'intense, de l'intelligibilité. Ce n'est pas la même chose. L'intelligibilité de ceci et ceci en tant que res, c'est deux choses différentes. Mais l'intelligibilité, tout ce qui existe est intelligible. C'est comme une propriété qui va me permettre de mieux dépasser le concret. C'est ça l'astuce. C'est que l'intelligibilité implique tout de suite une certaine, c'est très difficile à exprimer, une certaine condensation de l'être. Je prends un mot imagé. C'est vrai, être a une densité d'être plus grande dans homme que dans pierre. L'être s'étend dans pierre, il se manifeste. Dans homme, il reste caché. Il y a une condensation. C'est pour ça que le mot cuidité est toujours lié à une certaine unité que Pierre ne dit plus. Alors il s'agit de confronter les deux. Et je confronte substance première, substance seconde. Et c'est pour ça que je les appelle substance. En réalité, voyez, substance première et substance seconde. Je devrais dire le premier dans l'ordre existentiel, le premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Ils sont premiers dans ces deux ordres. Or, l'être est à la fois intelligible et il est ce qui existe. Donc, il est au-delà de ce premier existentiel, de ce premier quantitatif. Il est au-delà des deux, mais il se sert des deux pour saisir ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être. Et ce premier dans l'ordre de l'être, c'est la substance principe. C'est ça l'induction. Vous voyez, j'interroge. Je veux savoir ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être. Si vous interrogez, alors avec insistance, qu'est-ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être, vous devez nécessairement dépasser toutes les réalités concrètes. Les réalités concrètes ne sont pas ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Pourquoi ? Elles sont multiples. Elles sont multiples. Le ceci est complexe, donc il est multiple. Il n'est pas premier. Ce qui est premier est toujours un. Il est indivisible. Or, Pierre, ceci n'est pas indivisible. Un bras, il reste pierre. Donc il n'est pas indivisible du tout. Il n'y a que si je coupe la tête, alors ça, c'est ennuyeux. Je sais pas si quand j'ai coupé la tête, où est pierre? Est-ce que c'est la tête coupée ou c'est le corps sans la tête? L'opération, quand on coupe la tête d'Azor et la tête de Médor et qu'on les recoupe sur un exemple, hein, c'est pas du tout un principe. Homme, je veux dire, Pierre est homme. Mais il est plus qu'homme. Il est Pierre. Homme, il n'existe que dans Pierre. Et en tant qu'il est homme, en soi, dans sa signification pure, il est plus que Pierre. Donc il y a quelque chose de plus dans l'un et dans l'autre, et tous les deux se dépendent. Il y a donc quelque chose de commun qui est source des deux, et qui fait que homme existe.